Il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest, la seule et unique émission de Radio Immo où l'on parle de tout, sauf évidemment d'immobilier, et cela en compagnie de Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour cher Christophe.
Comment ça va aujourd'hui?
Très très bien.
Vous avez l'air en forme, vous avez bonne mine.
Tout va bien.
Il y a du soleil, ça se voit. Vous avez commencé à bronzer déjà.
Avec deux invités.
C'est sympathique. Absolument. On est ravis de vous retrouver en tout cas pour cette émission au cours de laquelle nous allons parler de limites en compagnie effectivement de deux invités que vous nous présentez.
Alors notre langue fourmille d'expressions qui témoignent que l'on aime indiquer des limites, restreindre, borner, enfermer, délimiter, bref, donner des repères à ne pas dépasser sous peine de sanctions ou d'exclusion. Ça dépasse les bornes, il n'y a plus de limites, marquer son territoire, perdre le sens des limites. Au fond, le monde serait composé de ceux pour qui il faut des limites car elles s'imposent. Symbolise une certaine forme d'ordre, et puis les autres pour qui il faudrait s'affranchir de toute limite. Et à égale distance entre ces deux conceptions figure une sorte de ligne de démarcation entre deux États, deux territoires, entre deux sentiments, bref, une sorte de no man's land qui délimiterait l'acceptable, l'autorisé, le supportable, le souhaitable, j'ai nommé la limite. Et c'est pour évoquer cette limite que nous avons l'honneur d'accueillir non pas un mais deux invités, en la personne de Monique Atlan et de Roger Poldroit. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Bonjour à vous, Monique Atlan et Roger Poldroit. Vous n'êtes Bonjour. Pas en studio, vous êtes en différé, mais on vous voit bien et on vous entend parfaitement. C'est un délice, je le disais, et un honneur de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors pour nos auditeurs, Monique Atlan, vous êtes journaliste et rédactrice en chef à France 2. Et pour vous, Roger Poldroit, vous êtes philosophe et éditorialiste, notamment au Monde. On vous retrouve tous les vendredis dans le monde littéraire. Et tous les deux, et à quatre mains, vous avez déjà écrit trois ouvrages et celui-ci, Le sens des limites, paru au mois de janvier de cette année, aux éditions de l'Observatoire, est donc votre quatrième ouvrage en commun. Mais avant que nous ne parlions de ce sens des limites, cette émission débute toujours par un court extrait sonore. Ici, vous allez l'entendre, on va parler de limites, alors que spontanément, on pense qu'il n'y en a pas. On en reparle dans une minute, le temps d'écouter ce court extrait.
L'univers a-t-il une limite? Ça pose la question de la dimension, de la forme de l'univers. Question qui se pose depuis le temps des Grecs, qui en discutaient longuement. Aujourd'hui, la question se pose dans les termes suivants. L'univers est-il infini ou fini? S'il est fini, ça ne veut pas dire qu'il y a un bord, ça ne veut pas dire qu'il y a une limite, ça ne veut pas dire qu'il y a un endroit où ce serait écrit « fin de l'univers ». Vous savez, quand vous sortez d'un village en France, il y a une croix, c'est écrit « fin de telle ville ». Ce qu'on peut dire, c'est que la question, on peut la formuler autrement en disant, supposons que vous partez en fusée spatiale très, très, très rapide. Donc, vous allez voir des galaxies un peu partout, vous allez en croiser, vous allez continuer. La question est la suivante. Est-ce que vous allez voir toujours de nouvelles galaxies? Ça serait l'univers infini. Ou bien si vous allez recommencer à voir les mêmes galaxies, ce qui serait l'univers fini? Évidemment, c'est en analogie avec le voyage en avion au-dessus de la Terre. Si vous partez en avion sur la surface de la Terre, bien vous savez bien que vous allez voir des continents nouveaux, puis à un moment donné, vous allez revoir les mêmes. Ça veut dire que vous avez fait le tour de la Terre. Alors, la Terre n'est pas infinie, mais elle est illimitée, en le sens qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un endroit où c'est écrit « fin de la Terre ». C'est simplement que vous allez y revoir les mêmes. Donc, on peut reposer la question en disant, sommes-nous dans un univers où nous verrons toujours de nouvelles galaxies, ou bien un univers dans lequel, après un certain temps, on va recommencer à voir les mêmes? Et ça, c'est une question importante en cosmologie, pour laquelle nous n'avons pas de réponse en ce moment. Il y a des embryons de réponse, mais qui ont un degré de crédibilité assez faible. Ce serait plutôt du côté univers infini, mais les preuves sont faibles et sujettes à caution.
Alors, vous avez bien sûr reconnu la voix rocailleuse d'Hubert Reeves, l'astrophysicien et formidable vulgarisateur scientifique qui nous parlait de l'univers et de ses limites, ou pas de limites. Et c'est vrai que lorsque l'on pense à cette notion de limite, vient tout de suite à l'esprit, à l'idée, ce qui n'a pas de limite. Albert Einstein aimait rappeler que deux choses n'avaient aucune limite, l'univers et la bêtise humaine, et il s'empressait d'ajouter que pour l'univers, il n'en avait pas la certitude absolue. Monique Atlan est dans Le sens des limites, l'ouvrage que vous avez donc coécrit avec Roger Paul-Droit à vos côtés. Vous écrivez, et c'est le titre de votre première partie, que nous vivons dans une époque tentée par l'effacement des limites. Il y a ceux qui veulent repousser la mort, d'autres qui espèrent que l'humain et les machines fusionneront, d'autres encore qui voudraient un monde non genré ou que les limites du travail soient repoussées le plus loin possible, sans parler de ceux qui veulent coloniser la planète Mars. Est-ce que cette tentation de repousser en permanence toutes les limites n'est pas quelque chose d'inné à l'humain qui, depuis la nuit des temps, a toujours cherché à repousser toutes les limites? Finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans notre période actuelle?
Écoutez, c'est intéressant que vous ayez choisi cet extrait d'Hubert Reeves avec son accent si reconnaissable, parce qu'effectivement, la réflexion sur les limites et sur l'infini a préoccupé de tout temps le monde de la physique, le monde de la cosmologie, et évidemment, c'est en fonction des réponses qu'on a pu apporter à ces questions qui restent, comme vous le remarquez, toujours ouverte, que les représentations des limites se sont dessinées période après période. Effectivement, nous avons eu envie de faire ce livre sur le sens des limites parce qu'il nous a semblé qu'il se passait quelque chose d'inédit concernant la représentation que nous nous faisons aujourd'hui des limites par rapport au siècle passé. L'histoire de la représentation des limites est très longue et nous avons essayé de la retracer rapidement dans notre ouvrage en marquant trois temps. Celui que Hubert Reeves note d'emblée, c'est celui des Grecs, où effectivement on a un sentiment qu'il y a un bord à la Terre et où on a essentiellement un respect des limites. Par crainte d'un hubris, d'une violence, d'une démesure qui serait particulièrement menaçante et destructrice. Après, on va passer à ce, vous avez employé l'expression, le dépassement des limites. C'est un temps où la réponse scientifique va commencer à s'installer, où effectivement, on aura envie d'un accroissement de nos connaissances, d'une extension géographique et d'une conquête du monde. L'instauration de l'idée de progrès, mais le dépassement à ce moment-là dans le monde qui s'instaure implique qu'il y a toujours des limites. Dépasser des limites implique toujours la limite. Et ce qu'il y a d'inédit, nous semble-t-il, aujourd'hui, c'est que c'est plus du tout le même mouvement, c'est carrément effectivement un désir, un fantasme, un souhait d'effacer les limites, de ne plus en tenir compte dans une recherche d'un toujours plus, d'une satisfaction toujours plus grande, d'un mouvement toujours plus grand, d'une mobilité, d'une métamorphose, d'une confusion des genres, d'une confusion entre l'humain et la nature, d'une confusion entre l'humain et l'animal, dans un désir, un fantasme de fusion avec le cosmos. Et c'est là que réside le problème, parce qu'effectivement, cette tentation d'un monde qui serait indifférencié, ou en tout cas en fusion avec le cosmos, pose des questions et peut-être aussi des menaces qui, peu à peu, nous ont dû faire émerger une sorte de réaction en contrepoint qui est ce retour à ceux qui invoquent en permanence des limites, des murs, des frontières, pour, d'une certaine façon, se protéger contre cette tentation de l'effacement des limites. Et nous avons considéré que ces deux attitudes, ceux qui veulent effacer les limites ou ceux qui les invoquent pour les rétablir de façon dure, rigide, autoritaire, au fond, sont des frères ennemis qui ont une logique commune. La logique commune, ça pourrait être résumé simplement où le rejeter toutes les limites comme un carcan, le tout des limites ou rien des limites, tout des limites ou aucune limite. Et c'est cette impasse-là qui nous a intéressés pour voir comment on pouvait réintroduire la notion de limite dans nos débats contemporains de façon moins hâtive, moins rigide, moins frustre.
Oui. Dites-moi une chose quand même, parce que en préparant l'émission, évidemment, on s'est replongé dans le dictionnaire Larousse pour avoir les idées claires sur la définition même du mot « limite ». Alors, qu'est-ce qu'on lit quand on regarde ? Ligne séparant deux territoires, deux pays ou deux terrains contigus, mais aussi ligne qui circonscrit un espace, marque le début et ou la fin d'une étendue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions, Roger Paul Droit ?
Oui, ce sont des définitions qui peuvent à la fois nous guider, mais qui posent aussi directement les questions, parce que finalement, la plus simple image de la limite, c'est la ligne blanche sur la route ou c'est la frontière qui est effectivement à chaque fois une ligne qui partage des espaces, mais on ne remarque pas assez que la frontière, par exemple, elle sépare des pays, mais aussi elle les unit, elle les délimite, mais en même temps, elle les relie. Et puis, dans les définitions que vous venez de donner, il y a une deuxième fonction, une deuxième dimension de la limite, c'est celle qui circonscrit. C'est-à-dire, c'est plus simplement limite comme arrêt, mais comme dessin des contours. Ce qui, finalement, est le cas de nos corps, de nos organes, mais aussi des mots dont nous nous servons, des idées que nous utilisons. À chaque fois, elles sont séparées les unes des autres, elles sont délimitées. Et s'il n'y avait pas ces délimitations, alors il n'y aurait plus d'organisation possible, ni de la pensée, ni de la société, ni des corps. Et donc, il y a cette fonction organisatrice. J'ajouterais juste que ça laisse quand même le travail de définition entier, parce que dans le dictionnaire, ce qu'on trouve, ce sont les usages des mots. Ce n'est pas exactement les définitions des idées. Si vous ouvrez votre dictionnaire au mot « vie », vous saurez donner la vie, mener une grande vie, il nous a fait la vie, etc. Vous aurez tous les usages du terme dans la langue française. Vous n'aurez peut-être pas la définition philosophique, beaucoup plus difficile à élaborer, de la vie. Sur la notion de limite, le dictionnaire nous donne ses premières indications. Le travail d'analyse, il reste à élaborer. On a tenté d'avancer un peu dans cette direction.
Est-ce que la crise sanitaire que nous traversons depuis tous ces longs mois ne nous a pas rappelé à l'ordre, d'une certaine manière, nous autres pauvres petits humains, en rematérialisant nos limites naturelles ? En d'autres termes, il y avait ces notions de progrès qui triomphaient de tout jusqu'à ce que nous soyons confrontés à ce virus microscopique en tant que limite à beaucoup de choses, limite en termes de santé, limite en termes de déplacement. Bref, nous avons toucher à nouveau du doigt nos limites. Et page 67, par exemple, vous écrivez, et je vous cite, « Il faut recommencer, reprendre à partir du début, se demander ce qu'on appelle limite. » Justement, et en ce printemps, été 2021, après presque une année et demie de Covid, c'est quoi une limite ?
Tout bêtement, c'est déjà, on l'a tous vécu, éprouvé, la limite, les limites, parce qu'il y en a de tous ordres et elles sont différentes et elles se succèdent et elles se contredisent. Les limites ont d'abord tenté de nous protéger contre cette menace-là qui est impalpable, invisible. Et c'est tout le paradoxe de cette épidémie que nous vivons depuis un an maintenant, tous très difficilement, c'est que ça a rendu... Ça a charnélisé, si on peut dire, l'idée de limite, ça l'a rendu palpable au moment où on était obligé de s'éloigner les uns des autres, où tout n'était plus que distanciation physique, territoriale, les masques, enfin je ne vais pas vous citer tout ça, vous le vivez comme nous au quotidien, mais plus encore, ça a posé, cette épidémie a posé des limites beaucoup plus complexes, c'est-à-dire celles de nos connaissances scientifiques. Nous avons vu des médecins désarmés devant ce qu'ils ne connaissaient pas. Nous avons vu les limites des systèmes de santé non préparés, l'affaire des masques qui manquent ou des vaccins qui manquent aussi. Nous avons vu les limites des systèmes de gestion de tout ça, dont on le sait dans les décisions parfois erratiques. Nous avons vu aussi la limite de nos capacités d'endurer l'incertitude, d'endurer les angoisses ou les problèmes psychiques qui se développent au fur et à mesure de cette épidémie. Donc effectivement, cette épidémie a été l'occasion de rendre palpable cette question des limites. Et c'était intéressant pour nous parce que nous avions eu l'idée d'écrire ce livre avant l'épidémie. Et au fond, nous nous sommes retrouvés devant cette situation qui faisait émerger cette question des limites que nous pensions être intéressante à éclairer et qui la rendait tout d'un coup beaucoup plus visible, ce que nous pensions qu'il était utile de faire, mais certainement pas de cette façon-là, en tout cas.
Oui, je remontre votre livre parce que c'est vraiment important, évidemment, le sens des limites. Monique Atlan et Roger Paul Droit, vous citez l'écrivain Romain Gary et son roman « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». En découvrant ce titre que je ne connaissais pas, il m'est revenu cette phrase de Jean-Luc Godard qui disait « J'aime les marges car ce sont les marges qui font tenir les pages ». Or, dans votre livre, et c'est à la page 91, hein, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a un chapitre sur les marges dans lequel vous dites que les marges sont des limites qui ne servent pas seulement à arrêter une page, mais à définir, et je vous cite, une zone d'interaction et d'échange plutôt que comme une ligne géométrique sans épaisseur. Si je vous comprends bien, vous dites que la marge est une limite qui permet d'aller plus loin. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, on va essayer de vous expliquer ça.
La question était un peu longue, mais...
Non, mais il s'agit toujours, finalement, d'essayer de retravailler cette notion de limite pour sortir de cette impasse où nous nous trouvons. On veut plus de limites parce que c'est des contraintes, on en veut partout parce que ça protège. Et il nous semble que dans cette dimension, enfin, qui traverse la plupart de nos débats politiques ou sociaux ou économiques aujourd'hui, ou écologiques aussi, eh bien, il y a quelque chose qui est trop fruste. Et retravailler la notion de limite, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire essayer de la distinguer d'une simple ligne, ça veut dire la distinguer des marges, des bornes. Alors, c'est un travail un peu d'analyse des notions, mais vous citiez Gary. Gary, il utilise cette formule qu'il y a sur les quais de métro ou sur les quais de gare. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, mais il l'utilise de façon temporelle, lui, pour dire, bah, si vous devenez trop vieux, vous n'allez plus pouvoir avoir une vie active ou tenir un rôle important. Vous allez être dans les marges de la société. Il y a l'aspect temporel dans la marge ou dans la limite, mais il y a aussi, plus particulièrement dans les limites, dans les marges.
Ah, voyons, on s'y perd.
Hein, ah, ça arrive, oui, c'est la limite de nos capacités de parler. Mais il y a aussi un aspect spatial, puisque dans les marges, l'opposition, elle est entre centre et périphérie. Mais elle peut aussi se retrouver dans l'idée d'action. Finalement, le plus simple, quand on dit « il y a de la marge », ben, ça veut dire « il y a une marge de manœuvre, nous approchons de la limite finale où ça va être de la péremption ou de la fin, mais on peut encore, ou bien nous venons de dépasser un petit peu la limite, mais pas trop, et on n'est pas encore totalement prescrit ou taxable. » Bon, vous voyez, il y a ce genre de marge de manœuvre. Alors, on essaye, nous, d'élargir la notion de limite pour qu'elle soit pensée aussi, non plus comme une ligne, mais comme un espace, comme quelque chose que l'on peut frayer, mais que l'on peut parcourir. C'est d'ailleurs un des vieux sens chez les Latins du mot qui a donné notre terme limite. Chez les Romains, le limes, c'était les frontières de l'Empire. Mais ces frontières, il ne faut pas les imaginer comme les nôtres, avec un poste frontière et puis une ligne géographique. C'était des marges ou des marches, comme on disait, c'est-à-dire des régions plus ou moins épaisses, plus ou moins denses ou fines, où il y avait des possibilités de circulation des légions, des convois, des marchandises. Pensez aussi à la muraille de Chine, par exemple. C'est une route, la muraille de Chine. C'était une route pour les marchandises, pour les troupes. Et donc, il y a cette vieille idée qu'une limite est aussi, d'une certaine manière, un point de passage.
Oui, Monique Atlan et Roger Paul Droit, vous vous souvenez de ce que disait le poète Alfred Jarry, j'imagine.
Vas-y, mon cher Christophe.
Après les bornes, il n'y a plus de limite. Hein,
oui.
Voilà, bah oui. C'est resté dans le vocabulaire quotidien, presque, hein, cette expression. Tiens, puisqu'on parle de limite, vous aimez, je crois, Julien Doré. Et ce titre de circonstance, j'ai dépassé les limites. Alors c'est un morceau que vous avez choisi, et il faut bien dire que les paroles de cette chanson reproduisent fidèlement notre discussion. Je ne vous les chanterai pas, rassurez-vous. Vous pouvez les chanter, vous, Philippe, ou pas?
Allez, non, on y va, on va écouter Julien.
Bon, d'accord, allez, c'est parti.
Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Des tonnes, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne me fâche, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer pour ça. Ouais, je vais. Les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bac. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. J'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris, je sais, après je vais payer. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris, je sais, après je vais payer. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris, je sais, après je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer tout ça. Alors je vais.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Et nous voici de retour en studio avec nos deux invités, Monique Atlan et Roger Paul-Droit, pour leur ouvrage « Le sens des limites ». Alors, vous vous rappelez la signification de l'expression « nec plus ultra » gravée sur les colonnes d'Hercule et qui signifiait « pas plus loin, aux portes de l'océan ». Plus que jamais, on a l'impression que notre époque se situe entre ceux qui disent « il faut des limites partout » et en particulier sur les sujets écologiques, et les autres qui pensent que ce qui dysfonctionne proviendrait des limites qui persistent. Est-ce que nous serions condamnés à une sorte de manichéisme ad vitam aeternam? Dit autrement, et c'était à la page 167, je vous cite une nouvelle fois, « nous demeurons à la recherche d'une pensée de la limite qui sorte de cet écueil ». C'est quoi cette recherche de la pensée? De la limite, pardon.
Eh bien, c'est la recherche d'une définition plus souple de la limite, plus ouverte, plus riche peut-être, qui nous permettrait d'en voir la force, la fécondité, et qui nous autoriserait aussi à sortir de cette tenaille dans laquelle nous sommes et qu'on décrit depuis le début de notre conversation, et que vous avez rappelé, entre quelque chose, un désir d'illimité, mais d'illimité par effacement des limites, plus seulement les dépasser, pas toujours aller au-delà, mais ne plus en avoir du tout, les avoir en quelque sorte gommés entre l'homme et la nature, entre les genres, partout, qu'il n'y ait plus, d'une certaine manière, de bornes d'aucune nature.
Et je rajouterai, avec comme but ultime ce désir, ce fantasme que le transhumanisme nous suggère et nous serine matin, midi et soir, avec l'idée d'en finir avec la limite ultime qui est la mort. C'est ça que l'on vise au fond comme un rêve ultime, c'est de pouvoir en finir avec la mort. Et quand le transhumanisme nous le promet, évidemment que cela peut fasciner.
Alors,
Nous sommes dans les studios de Radio Immo et nous n'oublions pas quand même qu'en immobilier, comme en urbanisme, on parle très souvent de géométrie. À ce titre, les notions de limite, que ce soit pour un terrain ou un immeuble, sont souvent liées à la notion de servitude, autrement dit d'obligation, liée notamment à un tracé de limite. Ici, cette servitude est une limite qui se pense non comme une ligne, mais comme un espace. Mis à part en géométrie, est-ce qu'il y a d'autres domaines où la limite est un lieu, un espace, un passage ?
Je crois qu'ils sont nombreux, ces domaines, parce que finalement, dans la morale, il y a la nécessité de s'empêcher. Vous savez, c'est Camus qui dit « un homme, ça s'empêche ». Il y a toujours une limite si on veut poser une action éthique. Mais il y a des manières, il y a des modalités différentes. Si on prend des exemples tout à fait actuels, qu'il s'agisse de l'inceste, par exemple, ou du viol, il y a ces interdits qui sont irréductibles et qui doivent être évidemment maintenus, mais il y a des points de passage entre plusieurs âges possibles, entre des modalités d'application des lois. Mais c'est la même chose dans le droit, c'est la même chose dans des tas de points, ou même dans la délimitation des périodes en histoire, où finit et où commence exactement le Moyen-Âge, l'âge classique, la modernité. Vous avez des points, des zones comme ça, intermédiaires et des points de passage. Et d'ailleurs, le vieux mot latin qui est limitor chez Virgile, ça veut dire frayer. Un chemin, tracer un chemin, c'est de ça une limite dans les champs. C'est pas simplement des barbelés, c'est des chemins à travers lesquels, des routes à travers lesquelles on peut avancer. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est de retrouver une idée de la limite comme lieu aussi d'échange, de passage, de négociation. Dans le corps, on pourrait prendre l'exemple de notre peau, qui est une limite aussi perméable. Et il y a quelque chose dans la limite que nous voudrions montrer dans sa fécondité comme une chose vitale et pas simplement une barrière étanche.
Monique Atlan, pour revenir un peu sur l'actualité, on y faisait déjà un peu référence tout à l'heure. On a vu au cours de l'année passée, du fait de la pandémie, qu'il a fallu s'adapter en permanence, car on a tous bien souvent improvisé hein, face évidemment à cette Covid-19. On a improvisé en inventant de nouvelles règles de travail, on a improvisé pour nouer du lien avec les autres. Bref, on a en permanence agi dans la plus complète incertitude. En période d'incertitude, quelles limites s'imposent encore à nous ?
Ben, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé durant toute cette année, c'est qu'au fond, on a peut-être récupéré le sentiment que notre façon de vivre dans le monde d'avant, comme on appelle ça maintenant, avec une sorte d'illusion de certitude sur ce qui nous environne, sur ce qui fait nos vies, était ôté tout d'un coup, et que peut-être la réalité du monde, c'est plutôt de retrouver cette idée d'incertitude du monde qui nous rend peut-être plus ancrés dans le réel que ce que nous racontions avant. Maintenant, comment vivre dans un temps d'incertitude ? Quelle limite dans un temps d'incertitude ? Je crois que la réponse, elle est toujours liée à notre relation aux autres. Et j'ai été aussi frappée, comme nous tous d'ailleurs, par tous ces élans de solidarité. C'est-à-dire comment c'est la relation aux autres qui nous permet de retrouver une forme d'énergie pour tracer ce chemin entre des limites tout à fait incertaines qui ont bougé sans cesse, entre des injonctions contradictoires, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je crois que la relation aux autres, au moment où elle nous a manqué, a recommencé à avoir son prix. Et donc, je crois que la limite que nous a imposée l'épidémie a été contournée par une reprise en compte du désir, de notre besoin, de la nécessité de notre relation aux autres, et une relation aux autres engagée, notamment par des mouvements de solidarité.
Alors, en hommage au cinéaste Bertrand Tavernier, France 2, que vous connaissez bien, Monique Atlan, a eu la bonne idée de rediffuser il y a quelques semaines l'excellent film dans lequel Thierry Lhermitte incarne Alexandre Taillard de Worms, ce ministre des Affaires étrangères fictif, inspiré de Dominique de Villepin. Et ce ministre a un auteur fétiche en la personne d'Héraclite, qu'il n'arrête pas de citer, dont cette phrase « Il faut éteindre la démesure plus encore qu'un incendie ». Question toute simple, dans notre époque marquée par une certaine démesure, notamment technologique, vous citiez les transhumanistes tout à l'heure, partagez-vous l'avis de cet Héraclite d'Éphèse, jugeant qu'un incendie était moins dévastateur qu'une situation de démesure, situation dénuée de toute limite ?
Alors, Héraclite, que les Grecs eux-mêmes avaient appelé l'obscur, très souvent, on peut lui faire dire beaucoup de choses diverses. Mais cette phrase-là, elle est relativement claire. C'est l'idée que ce qui est la démesure, c'est ce que les Grecs appelaient l'hubris. C'est le fait que, au-delà, justement, d'un certain point, lorsqu'on cède à son appétit de gain, d'ambition politique, il n'y a plus de frein. C'est l'idée qu'une fois transgressé finalement des interdits fondamentaux, alors on ne s'arrêtera plus et ce sera quelque chose qui mettra le feu d'une certaine manière à toutes les existences et à toutes les relations et qui finira par détruire. Alors bien sûr, je crois qu'il faut peut-être se méfier d'un trop grand alarmisme. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui vont mal, mais d'autres qui vont relativement bien. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est veiller à restaurer le sens des limites, le sens de la mesure, qui peut être complexe, qui doit être négocié, qui doit être discuté collectivement. Il ne s'agit pas d'imposer une dictature du limitariat comme il y a eu une dictature du prolétariat, mais il faut faire attention à retrouver ensemble une discussion autour d'une idée intelligente des limites. Le monde d'après, il n'aura de sens, me semble-t-il, que si il a une intelligence collective des limites.
Alors, nous pourrions continuer comme cela à parler limites et philosophie pendant très longtemps, mais il faut rendre l'antenne. Et merci infiniment, Monique Atlan et Roger Paul-Droit, d'avoir été notre boussole pour cette émission passionnante. Nous avons été très honorés de vous accueillir à ce micro. Et je le répète, hein, vous êtes les auteurs du Sens des limites, paru aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre vraiment éclairant et très vif sur la notion philosophique, historique, politique de limite. Bref, vous l'avez compris, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui à l'antenne. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci Christophe, mais avec plaisir, toute l'équipe de Radio Imo qui a œuvré à la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, cette émission peut être réécoutée en balado-diffusion sur le site de Radio Imo et sur tous les players de podcast, comme on dit. D'ici là, bon vent et cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Mais il est complètement fou, ce mec!
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.